Vous écoutez
RMC. RMC. After Foot. Intégrale Coupe du Monde. Intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
Avec Daniel Riolo, avec Kevin Diaz, Hamza Ramani, spécialiste foot africain d'RMC, Sébastien Bassong, notre invité international camerounais, Oussem Nusaïef est là également, les gars. Ça y est, tout le monde a joué un match, fin de la première journée du mondial. Tiens, Hamza, rapidement, parlons quand même des sélections africaines. Le bilan, c'est 3 défaites, 2 nuls, un but marqué, voilà.
Ouais, mais il y a aussi l'impression.
Le Ghana, du coup, on a mis.
Ah, le Ghana 2, pardon, 2 buts marqués.
Il y a aussi l'impression, et par rapport à ce que moi j'attendais des pays africains avant la compétition, sur l'ensemble, c'est un bilan, je ne vais pas dire satisfaisant, mais pas si mauvais que cela.
Parce que tu t'attendais à pire.
Je m'attendais vraiment à pire. Évidemment.
Des Français pour
après, il faut voir, parce que si tu n'en passes aucun en 8e, ce sera une sacrée déception quand même.
Oui, mais ça dépend dans quelles conditions. Ça dépend dans quelles conditions. Je vais donner un exemple tout simple. Le Cameroun, j'ai été vraiment agréablement surpris par ce qu'ils ont proposé sur la première heure de jeu. Je m'attendais vraiment pas les voir à ce niveau. Je pensais, pour le Cameroun par exemple, je craignais un zéro point avec une différence de but de moins 10. Enfin, ils ont été. Je pense que Sébastien en parlera
non,
bien mieux que moi.
Je suis pas d'accord.
Ah, sur les matchs de prépa, l'Ouzbékistan c'était compliqué. La Corée du Sud c'était très compliqué.
Mais les Camerounais ils jouent pas les matchs de prépa. Ça les intéresse pas.
En fait, les matchs de prépa, moi, j'ai jamais compris.
Pour avoir du temps de jeu, quoi.
Non, mais c'est pour avoir du temps de jeu, pour faire des petits ajustements. Et même la pression, le mental du joueur, c'est pas le même. Vous me parlez des matchs de prépa comme si, à un moment donné, la compétition et la préparation, c'était la même chose. L'entraînement et le match du week-end, c'est la même chose. C'est pas du tout la même chose.
Ouais, mais Sébastien, quand tu rappelles des nouveaux joueurs comme Nicolas Nkoulou, qui n'était plus là depuis 5 ans, quand tu rappelles Georges Mandjek en septembre dernier, c'est aussi qu'il n'y a pas de certitude dans cette équipe. Donc quand on arrive.
Mandjek,
Qatar,
c'est difficile quand même. Hein.
Quand on arrive au Qatar avec ses enfants,
il a retrouvé ses pieds ou pas encore.
Forcément, on est inquiet. Mais après, encore une fois, le Cameroun a fait un super match. Choupo-Moting, il a fait une heure de jeu, encore une fois. Il surfe sur ce qu'il fait au Bayern. Les joueurs qui répondent présents dans les grands clubs, Onana, Zambo, ils sont aussi présents. Le Cameroun a fait son match. À part le Ghana, franchement, au niveau du jeu et de ce que l'on a vu sur le terrain, j'étais assez satisfait personnellement par les pays africains, même s'il n'y a pas eu cette concrétisation finale. Le Sénégal n'a pas marqué alors qu'ils font un match plutôt intéressant. Les Tunisiens, pareil. Voilà, c'est vraiment dommage. Maintenant, il faut poursuivre sur cette lancée dans le jeu, à part le Ghana qui doit vraiment changer du tout au tout et concrétiser par des victoires et par des buts.
Tu mises par au moins une sélection africaine en 8e de finale. Ce qui n'est pas arrivé en 2018. Hein, il n'y avait aucune sélection africaine en 8e de finale du mondial. Les autres sélections, les gars, alors allons-y. Question très ouverte. Sébastien, tu participes également. Kevin, Daniel. Quelle est l'équipe qui vous a fait la plus grosse impression? Critères, vous les choisissez. Hein, personnalité, identité,
honneur à l'invité,
efficacité.
Vas-y.
Sébastien, vas-y.
La plus grosse impression, le Japon.
Ah!
Le Japon, parce que le niveau de l'intensité sur 90 minutes, normalement, je pense que quand t'es sublimé par l'événement et t'arrives à une Coupe du Monde, tu joues contre l'Allemagne, t'es naturellement sublimé. Mais après, tu tiens jamais 90 minutes à ce niveau-là. Et le Japon, contrairement à l'Arabie Saoudite, par exemple, je trouve qu'il y avait beaucoup plus de qualité technique. Donc c'était maîtrisé. C'était pas simplement on se bat et la seule qualité c'est le courage.
Est-ce que je peux raconter une anecdote qui m'avait marqué sur ce match-là parce que j'étais au stade. On a tous joué au football, on sait tous comment se passe un échauffement. Et ben faut savoir qu'au Japon, les titulaires et les remplaçants font tout l'échauffement ensemble. Ça m'a choqué, je l'avais dit au commentateur qui était assis à côté de moi et je lui dis, je te jure que le sélectionneur il est fou, il fait s'échauffer de la même manière les titulaires et les remplaçants, ça veut dire que dans sa tête, les remplaçants sont des titulaires. Et il a fait des changements très vite et ceux qui ont fait le déclic de ce match, c'était les remplaçants. Donc comme quoi il a préparé, et c'est pour ça que moi je me suis tout de suite dit c'est la victoire du coach. Il avait déjà préparé son truc et c'était franchement bravo à lui.
Le Japon hein, qui est en plus joueur impressionné. Costa Rica qui semble très jouable pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Daniel, ton équipe.
Je vais pas le dire comme ça. On a vu toutes les équipes une fois, ça y est, donc on a une première impression. Alors je sais pas, il y a une expression qui dit qu'il faut s'en méfier, ou il y en a une autre qui dit que la première impression
est la bonne.
Elle est bonne. Donc on sait jamais où se situer. On a vu donc 32 équipes. Et sur les 32, alors, le Japon, je ne l'avais pas mis dedans, mais c'est probablement parce que je considère qu'ils ne peuvent pas aller au-delà des 8e, et malgré leur très bon match qu'il faut souligner, tu l'as fait, donc je ne vais pas le refaire. Je vais parler des autres. Mais sur toutes ces équipes-là, collectivement, j'en ai vu que 3,5-4 qui ont vraiment proposé quelque chose.
Allez, dis-moi.
Un vrai jeu, quelque chose d'intéressant.
Tu vas me faire
L'Espagne, l'Angleterre, et France et Brésil se partagent pour compléter le podium. Le reste, j'ai vu, même chez les équipes qui ont gagné, on parlait du Portugal tout à l'heure, une addition d'individualité. Des équipes qui avancent comme ça, on ne sait pas très bien ce qu'elles proposent. J'aurais presque pu mettre l'Allemagne aussi, où on comprend ce que collectivement ils veulent faire, mais sauf qu'ils ont toujours leur défaut qui est de ne pas être efficace.
Ils ont rencontré...
dans ce match-là, des Japonais hyper motivés qui les ont bousculés, mais quand ils mènent 1-0 et quand ils ont les occasions de faire 2-0, oui, les Allemands auraient également pu le gagner ce match. Pour le reste, c'est ça les équipes nationales, c'est ça la Coupe du Monde. T'as souvent des collectifs qui sont mal imbriqués, beaucoup d'additions, de 1+1+1+1, mais dans le 11, non, l'Espagne, clairement, je les mets en 1, ce qu'ils ont proposé, c'est fantastique. Merci. Alors, ok, c'est le Costa Rica, c'est pour ça que première impression, j'ai besoin d'une deuxième impression.
Oui, oui.
J'ai besoin de voir ce qu'ils vont faire contre l'Allemagne, parce que soit ils enterrent l'Allemagne, et ça, ce serait quand même pas rien, parce que dès dimanche soir, on peut avoir une énorme sensation. Soit, c'est plus équilibré. On va voir ce que ça va donner. Mais dans la première impression, le jeu collectif, les Espagnols, j'ai adoré. Angleterre, France et Brésil qui se partagent la troisième place.
Kevin.
Non, moi je vais rester sur le Brésil en numéro un, bien devant les autres, parce que même si je suis d'accord avec Daniel sur l'Espagne, la France et l'Angleterre, ils ont joué contre personne. Honnêtement, ils ont joué contre des très petites équipes mondiales, donc je vais attendre de voir sur.
Oui, mais contre des petits, tu peux aussi gagner sans qu'on voit ce que tu veux proposer collectivement. Kevin,
c'était des très petits.
Non, mais regarde, quand tu regardes un match de Coupe de France contre un très petit, tu peux gagner même 2-3-0 sans que tu comprennes ce que collectivement t'as vraiment voulu faire.
Oui, non, mais
l'Espagne, tu vois que collectivement ils sont dans la lignée, et surtout, moi je te le répète, dans un petit match que tu dois gagner facilement, aller courir 120 km/h. Pas 120 km/h, je trouve que c'est quand même, c'est quand même significatif.
Oui, oui.
C'est-à-dire que t'écrases l'équipe en face.
Exactement.
Ça veut dire qu'ils ont voulu les gifler jusqu'au bout quand même.
Si tu me laisses finir, je te dis pas qu'ils ont pas été bons, moi. Je te dis que j'ai été plus impressionné par le Brésil, même s'ils ont pas été incroyables, mais c'était face à la Serbie, qui pour moi est une vraie grosse équipe européenne quand même. Une belle équipe européenne en tout cas, et difficile à bouger. Donc ça restera le Brésil en 1. Et si je dois mettre une équipe frisson, même si ils ont perdu, je mettrai le Canada, parce que je me suis régalé à voir cette équipe.
Oui, Canada, c'est vrai, tu fais bien d'en parler, c'est vrai. Dans les petites équipes, on a Japon-Canada à mettre en avant.
Ouais, c'est vrai.
Canada, part la Belgique 1-0. L'Arabie Saoudite n'a pas été citée, les gars.
Ouais. Bon. Bah si, c'est la grosse surprise.
Non, tout à l'heure tu parlais du Japon, parce que le Japon, tu dis 90 minutes d'intensité, de folle intensité, l'Arabie Saoudite.
Ouais. Non, mais t'as absolument raison. Mais
physiquement,
ça, c'est le propre.
Ouais, mais c'est moins le côté.
Moins de contrôle, moins de maîtrise.
Moins de maîtrise. Ouais. Moins de maîtrise.
Ouais, mais c'est pareil, c'est l'énorme sensation. Mais ça, c'est la Coupe du Monde. Le problème, c'est qu'on est dans un tunnel de match où on en avale 4 par jour.
Ouais.
Et Arabie Saoudite, Argentine,
le recul.
On a l'impression que c'était déjà l'année dernière. Alors que c'est quand même un exploit incroyable.
Bien sûr, c'est incroyable. Après, j'arrive pas à m'enlever de l'idée, ce hors-jeu de la manche droite là de Lautaro Martinez qui fait que peut-être derrière ils en prennent 5 en fait. Donc moi le match je l'ai vu, je suis désolé, ce genre de match en fait moi ça m'énerve en fait. Moi ça me fait pas vibrer ce genre de match. Le genre de match l'Argentine roule sur son adversaire, mène 2-0, met derrière un poteau et derrière va perdre 2-1 sur deux wonder goal.
C'est le football.
Ça me saoule.
Ah, c'est le football Kevin.
De quoi j'ai pas compris ?
Wonder goal.
Ouais. Ah, ça fait 4 ans que
on n'en peut plus.
Je lui demande d'arrêter les anglicismes, on n'en peut vraiment plus.
Moi j'aime bien. Moi ce jeu, ça lui donne un style.
Ton contrat est terminé. Daniel va se battre pour le maintenir. C'est terminé.
Nico, sur les équipes de ce début de tournoi, moi je reste fidèle à ce que je t'avais annoncé au mois de septembre.
Dis-moi.
La France et l'Espagne. Je reste fidèle à ça parce que ce sont les deux seules nations qui sont la carte d'identité du sélectionneur. Je vais m'expliquer. C'est les deux seules nations quand tu les vois. C'est la représentation de ce que le sélectionneur veut. Et que ce soit pour la France ou pour l'Espagne, c'est la même chose. Et je le pensais au mois de septembre et je le pense encore plus avec ce premier match.
Alors
j'ai
absolument raison, mais ça vaut aussi pour le Brésil.
Et je pense qu'il peut y avoir une limite à un moment donné, parce que par exemple, je pense que l'Espagne, face à une défense très efficace et très solide, il va falloir utiliser plus d'individualité. Et c'est là où ça va peut-être bloquer.
Moi, je pense que l'Espagne, déjà, ils perdent contre l'Allemagne. Mais on verra.
Et c'est là où ça va peut-être bloquer. Mais je pense sincèrement que jusqu'au bout, et tu le disais, ils vont mourir avec leurs idées. Ils vont essayer d'avoir la maîtrise de balle. Ils vont essayer de faire tout ce que Luis Enrique veut. Et c'est la même chose pour la France.
Mais attention, Kevin. Le match, effectivement, l'Allemagne peut battre l'Espagne. J'ai aucun problème à envisager ça. Mais on va quand même être face à deux équipes qui, en termes de projet de jeu, sont probablement les plus abouties de la Coupe du Monde.
C'est sûr, mais je pense que l'Allemagne a une meilleure équipe que l'Espagne.
L'Allemagne bat l'Espagne. Si des gens arrivent et m'enfoncent l'Espagne, je vais vite leur dire calmez-vous, parce que là, on va être dans le probablement le plus gros match de cette première phase entre deux des sélections les plus importantes du continent européen. Ce match-là sera vraiment à part dans la compétition.
Le projet de jeu
avec l'Allemagne, qui a
non mais abouti dans ce qu'ils veulent faire.
Abouti dans ce qu'ils veulent faire. Et la raison pour laquelle moi je pense que je sais pas vers qui le résultat va se tourner, c'est que c'est deux projets de jeu bien aboutis des deux côtés. Et bah là, il y a deux équipes de vraiment grande qualité. Ça Absolument. Va être la forme du jour pour moi, parce qu'il y a deux principes de jeu. L'Espagne, ils vont jamais déroger de leur tiki-taka.
C'est ça.
Et l'Allemagne, il va faire de la.
Ils ont mis beaucoup de vitesse dans leur jeu.
Mais
plus trop tiki-taka comme expression, parce que ça signifie une sorte de
jeu de passe.
Un tiki-taka 2.0, je vais dire ça comme ça.
Là pas d'endormissement.
Ils ont mis quand même beaucoup de vitesse dans leur jeu. Et là, il va y avoir de l'espace, parce que comme l'Allemagne va vouloir monter également pour s'installer chez eux, il va franchement,
dans cette maîtrise de la possession.
Ça peut être un match, j'espère que c'est le match. Ça peut être un match de dingue.
Il y aura beaucoup de buts. Je pense qu'il peut y avoir beaucoup de buts.
Ce sera dimanche, les gars, à 20h. On sera là pour le commenter. Quelques statistiques de cette première journée de Coupe du Monde, 42 buts en 16 matchs, on vit plus de buts et demi par match. 0-4 au rouge également.
On est dans des standards normaux, non? On n'est pas.
Au Brésil, ça cartonnait beaucoup, je me rappelle. Ouais. Beaucoup plus que ça.
Non, je parle des buts, moi, je parlais pas des cartons.
Au Brésil, ça cartonnait beaucoup devant le but.
Dans le but.
C'est ça que tu voulais dire, ta confusion, exactement.
Oui.
0-4 au rouge, première fois depuis Mexique 86.
J'ai cru zéro carton rouge.
Ça allait tomber sur Turpin cet après-midi.
Ça me dérange qu'il n'y ait pas de carton rouge un petit peu.
Pourquoi?
Qu'est-ce que t'aimes le foot violent?
Non, c'est pas le foot violent. Ça veut dire
des années en Angleterre.
On a déjà des années en Angleterre. Et après, il y a carton rouge et attentat. Et il y a le carton rouge et l'excès d'agressivité. Mais tu vois, l'agressivité dont tu as besoin.
Arrête, je ne justifierai jamais à mes yeux un carton rouge.
Après, ça dépend. Il y a deux cartons jaunes, par exemple.
J'ai l'impression d'écouter Nicolas Villas.
Faire une cheville ou plier un genou, c'est bien.
Je te signale que ton idole des cartons rouges en a pris beaucoup.
Oui, mais ça, c'est des accidents.
Ah oui.
D'accord,
c'est pas grave.
Ce sont des accidents.
Excuse-moi, son idole, c'est le même idole que son frère.
Oui, c'est ça.
Ah, d'accord.